Seigneur, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as réalisé des projets étonnants, depuis longtemps fermes et solides. Car tu as réduit la ville en un tas de pierres, la cité forte en un monceau de ruines. Le palais des étrangers a disparu de la ville. Jamais il ne sera rebâti. C'est pourquoi le peuple puissant te glorifie. La ville des nations brutales te craint. Car tu as été une forteresse pour le faible, une forteresse pour le pauvre dans la détresse, un abri contre l'averse violente, un ombrage contre la chaleur. Car le souffle des brutes est comme la pluie battant un mur. Comme tu domptes la chaleur sur un lieu desséché, tu as dompté le vacarme des étrangers. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi l'a été le chant des brutes. Le Seigneur des armées fera tout, fera pour tous les peuples, dans cette montagne, un banquet de mets succulents, un banquet de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Dans cette montagne, il anéantira le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantira la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple. C'est le Seigneur qui parle. En ce jour-là, on dira « C'est lui notre Dieu !» Nous avons mis notre espérance en lui et il nous a sauvés. C'est le Seigneur en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. Car la main du Seigneur repose sur cette montagne et Moab est foulée sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Au milieu de cette mare, il tend les mains, comme le nageur les tend pour nager. Mais le Seigneur abaisse son orgueil, en même temps que les pièges de ses mains. Il renverse, il abaisse les fortifications élevées de tes murs, il leur fait toucher la terre. Il les abat dans la poussière.
Ésaïe pointe vers l'avenir et dit quelque chose d'assez remarquable. Dieu promet une protection pour les faibles. Dieu promet une vie éternelle pour des gens issus de tous les peuples.
Dieu promet une victoire pour ceux qui humblement reconnaissent son salut.
Si, avec tous les gens qu'on a dans la rue en ce moment, vous alliez dans la rue pour leur poser la question en disant ces promesses, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quelles seraient les réactions? Difficile de dire, il y aurait probablement diverses réactions, mais je pense que certains d'entre eux seraient probablement sceptiques. Écoutez par exemple la perspective de Luc Ferry dans son livre « Apprendre à vivre ». D'accord. Écoutez la citation de Luc Ferry. C'est sur le côté. Ah. Voilà, on y est. La promesse que font les religions pour calmer des angoisses de mort, à savoir celle d'après laquelle nous sommes immortels et allons retrouver après la mort biologique ceux que nous aimons, est, comme on dit, trop belle pour être vraie. Trop belle aussi et tout aussi peu crédible l'image d'un Dieu qui serait comme un père avec ses enfants. Pour lui, ces promesses, c'est trop beau pour être vrai. Une protection pour les faibles, une vie éternelle pour ceux qui viennent de tous les peuples, une victoire pour ceux qui humblement reconnaissent son salut. Parce que ça épouse si naturellement les aspirations de notre cœur, pour lui c'est une évidence, il faut s'en méfier, c'est trop beau pour être vrai. Mais avec le texte qu'on a sous les yeux, il faut reconnaître que pour chacune des affirmations, l'inverse est vrai aussi. L'inverse est vrai aussi. La destruction de tous ceux qui se croient indépendants par rapport à Dieu. La mort, conséquence de notre rébellion vis-à-vis de lui. La condamnation de tous ceux qui sont orgueilleux. Est-ce que ça épouse si naturellement nos aspirations? S'il y a bien une réalité dont il est difficile de parler aujourd'hui, c'est la réalité d'un Dieu qui juge, la réalité de l'enfer, de peines éternelles.
Et même si ça ne correspond pas à l'aspiration du moment, c'est bel et bien ce qui est affirmé ici dans le texte. Dans ce texte, il est question de ville, de vie et de victoire. Et par trois questions, on devrait relever à chaque fois les contrastes. Une ville protégée, une vie préservée, une victoire préfigurée. Et on va commencer avec une ville protégée. Le rythme de croissance des villes est assez impressionnant. Ça n'a jamais été aussi effréné, même, on pourrait dire. Alors, même si ce n'est pas trop visible en Europe, en 10 ans, la population urbaine a augmenté presque deux fois plus que la population totale, soit l'équivalent de 5 nouvelles mégapoles de la taille de Beijing tous les 12 mois. Imaginez. Et en 2025, plus de la moitié de la population mondiale, soit 3,5 milliards de personnes, seront concentrées dans les villes. Ça, c'est la perspective des villes. Et les a priori sur la ville, c'est souvent que c'est un lieu pas forcément agréable à vivre. Je ne sais pas si vous avez vu le titre d'un magazine où « Ce qui énerve les Parisiens » et la liste. La liste, elle parlait des embouteillages, de la saleté, le bruit, la pollution, l'insécurité, le cauchemar du logement. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a une liste beaucoup plus longue, vous êtes d'accord? Il y a le problème des gens qui dépassent dans les files, les gens qui se mettent en plein milieu de l'allée dans un magasin. Enfin, il y a énormément de choses à rajouter sur la liste. Mais une des choses qui ressort quand on pense à la ville, il y a probablement l'idée d'une certaine insécurité. Est-ce que ce n'est pas là qu'il y a la délinquance, des problèmes de criminalité? Quelle est la perspective à avoir de la ville? Le texte commence avec un élan de reconnaissance. « Seigneur, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as réalisé des projets étonnants depuis longtemps, fermes et solides. » Dieu est loué pour ces projets étonnants qu'il a annoncés depuis longtemps. Mais on découvre au verset 2 plus précisément la raison de cette reconnaissance. « Car tu as réduit la ville en un tas de pierres, la cité forte en un monceau de ruines. » Comment est-ce qu'il faut comprendre ce qui est affirmé ici ? Est-ce que ça signifie qu'il faudrait se réjouir d'une situation comme Fukushima ? Ou alors, si on pense à la Deuxième Guerre mondiale, la ville de Caen ou Dresde qui est rasée par les bombardements ? Comme pour dire, les villes, c'est pas bien, vive la campagne. Ce serait un slogan très fort, je le conçois. Les villes, c'est pas bien, la campagne, c'est beaucoup mieux. C'est vrai, la ville est décrite dans des termes péjoratifs dans les premiers versets, les trois premiers, mais elle est utilisée de manière très positive dans le verset 4 pour décrire la protection que Dieu veut offrir par sa personne. Car tu as été une forteresse pour le faible, une forteresse pour le pauvre dans la détresse. Autrement dit, on a affaire ici à un symbolisme. Il y a comme deux villes. Une ville qui sera appelée à être détruite malgré toutes les apparences de force, et une ville, gage de protection malgré les signes de faiblesse. Et on ne devrait pas être surpris de ce contraste parce qu'il est présent à différents endroits dans la Bible. Prenez les premières et dernières pages de la Bible. Au tout début de la Bible, on découvre les origines de deux villes qui vont être importantes pour le reste de la Bible. En Genèse 11, il y a Babel. Cette ville où les hommes décident de construire une tour qui s'élève vers Dieu parce qu'ils veulent se faire un nom. En Genèse 14, il est question de Salem, vraisemblablement à l'origine de Jérusalem, comme Babel deviendra Babylone. Et il est là question d'un certain Melchizedek, un prêtre de Dieu qui est en même temps roi de Salem. Et par la suite, on découvre que Jérusalem devient le centre de la vie religieuse, le lieu où Dieu accepte dans sa grâce de résider, de faire résider son nom. Et si Babel, c'est le symbole d'une ville qui s'élève avec orgueil, Jérusalem est le symbole d'une ville où Dieu accepte dans sa grâce, il fait résider son nom. Dans les dernières pages de la Bible, le livre d'Apocalypse, on y retrouve ce symbolisme, les questions de deux villes, Babylone, la nouvelle Jérusalem. Et historiquement, il ne faut pas se dire que à Babylone, c'est les méchants, et à Jérusalem, c'est les gentils. un peu comme Bioman ou les méchants d'un côté et les bons de l'autre. À Babylone, on a des gens comme Daniel qui était intègre et ses amis. À Jérusalem, on a des injustices terribles qui sont commises, à commencer par la demande de l'exécution de Jésus. Non, il faut voir là des symboles et ce qu'elles représentent. Qu'est-ce qui ressort du contraste ici ? La première ville est un peu comme une représentation de la puissance humaine en rébellion vis-à-vis de Dieu, qui rejette son autorité. L'auteur veut qu'on sache que même si cette ville a la réputation d'être forte, elle va être détruite. D'où la crainte de tous les habitants. L'orgueil humain, il est appelé à être jugé. Le cœur de cette rébellion va être remis en question, anéanti. Et à l'inverse, les faibles, les pauvres trouvent refuge en Dieu, comme dans une forteresse. Dieu est tout suffisant dans la protection. Il est un abri contre la verse violente, un ombrage contre la chaleur. Et on voit le contraste entre ces deux villes dans les deux champs qui viennent de ces deux villes. Mercredi soir, pour ceux qui se baladaient dans la ville de Paris, on pouvait savoir à peu près ce qui se passait sur le terrain entre le PSG et Barcelone. Parce qu'il y avait, au moment du but du Paris Saint-Germain, les cris de joie, l'exclamation. Et puis, au moment de l'égalisation, une sorte de bruit sourd, boum, où on entend qu'il y a une réaction forte, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Ici, on a un peu comme deux chants qui sont émis, qui viennent de ces deux villes. On l'a vu au verset 1, il y a la reconnaissance d'un côté. À l'inverse, au verset 5, il est dit que le chant des brutes est dompté. Là, tout le monde s'arrête de chanter, le silence est imposé. Et le contraste qui est donné ici, c'est une bonne occasion, à mon avis, de réfléchir à notre manière de nous percevoir. Dans quelle ville est-ce que nous résidons ? Plus jeune, quand je me souviens être allé en Irlande du Nord où habitaient mes grands-parents, et une des sorties qu'on avait faites avec ma sœur, c'était d'aller à la patinoire. Et il y avait tellement de monde sur la patinoire qu'à certains moments, ils proposaient aux patineurs chevronnés de rester sur la glace et qu'ils puissent un peu se dépenser. Et moi, j'avais grandi en Suisse, dans une petite ville qui avait sa propre patinoire, pour 8000 habitants, imaginez. Et alors, je me suis dit, mais ce n'est pas les Irlandais qui vont m'apprendre à faire du patin quand même. En venant de Suisse, j'avais le sentiment d'être au-dessus de la moyenne. Alors que tout le monde sortait de la piste, je m'avançais avec mes patins. J'ai commencé à patiner. Et il n'a pas fallu longtemps avant que je sois rattrapé par quelqu'un de la sécurité qui m'a fait comprendre que ce serait peut-être bien de prendre la prochaine sortie. Une des difficultés qu'on a avec l'orgueil, c'est qu'on a de la peine. On a de la peine à déceler qui on est vraiment. On a de la peine à réaliser de quoi on est fait. On a de la peine à être à l'écoute des autres, tendance à vouloir prétendre être suffisant. Dans quelle ville est-ce que j'ai tendance à me réfugier ? Dans quelle ville est-ce que je demeure ? Dans différents domaines, est-ce que j'éprouve le besoin de me rassurer en me disant « mais tu es quelqu'un de bien, tu es doué, tu as toutes sortes de capacités en toi. » Ou à l'inverse, est-ce que je me réfugie dans cette ville que Dieu représente, où je reconnais ma faiblesse, je reconnais ma pauvreté et j'éprouve le besoin de me diriger vers lui. Est-ce que j'ai tendance à me voir suffisamment fort par moi-même, suffisamment intelligent, suffisamment capable ? Est-ce que je suis ici à Paris pour me faire un nom, pour avoir de bonnes études et pouvoir avoir un bon CV, une bonne réputation ? Ou est-ce que je vais régulièrement me réfugier sous son nom à lui, reconnaître que c'est sous son nom que je suis protégé ? L'affirmation ici, c'est que la première ville est marquée par un désir d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Mais cette ville-là, elle tombera. Celle, par contre, qui est marquée par l'humilité et la conscience de notre pauvreté, où il s'agit de trouver refuge en Dieu, cette vie-là, elle va tenir. On passe ensuite à une vie préservée, dans les versets 6 à 8. Dans quelle situation est-ce qu'on utilise l'expression « Ah ben, on ne va pas mourir de faim ». Je vous propose des possibilités. On ne va pas mourir de faim. On dit ce genre de blague quand on est en plein désert, sous une canicule. « Ah, on ne va pas mourir de faim ». Non, ce n'est pas ça. Alors qu'on a un plat qui nous est proposé et puis on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, eh ben on ne va pas mourir de faim. Non, ce n'est pas là non plus. C'est plutôt quand on a l'abondance de plats, quelqu'un qui nous nourrit en abondance, là on va dire, ah ben on ne va pas mourir de faim. Hein? C'est là qu'on l'utiliserait. Rassurez-moi, c'est bien là qu'on l'utiliserait. Merci. Au verset 6, il est question d'un banquet. Et la répétition, le nombre de choses qui est dit de ce banquet, dit l'abondance, les plats succulents qu'on trouve dans cette table. Et comme dans la première partie où on voyait un contraste entre deux villes, il y a un contraste ici, semble-t-il, à faire entre une vie qui est soutenue par la nourriture, qui est maintenue, et une vie qui dépérit. Le Seigneur des armées fera pour tous les peuples dans cette montagne un banquet de mets succulents. On pourrait dire de ce banquet qu'il a quelque chose à la fois d'inclusif et d'exclusif. Inclusif dans le sens que ce n'est pas réservé à une certaine nation, à un certain peuple. C'est tous les peuples qui sont représentés là. Quelqu'un ce soir pourrait dire « Mais moi, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. » Je viens d'un endroit où le christianisme est très peu présent, mais ce banquet, il ne peut pas être pour moi alors. Non, il est bel et bien inclusif, c'est ouvert à tous les peuples, des gens de toute origine. Dans le même temps, il y a les traces de quelque chose qui est exclusif, c'est dans cette montagne ou sur cette montagne, probablement un symbole de Sion, la montagne sur laquelle le temple à Jérusalem était construit. Autrement dit, c'est dans la personne de Dieu, dans la confiance en Dieu, tel qu'il a été présenté plus tôt, que je dois avancer. Et là, c'est exclusif, pas ailleurs. Ce repas, il est symbole de communion, de réconciliation, de restauration aussi, certainement. Cette vie, elle est soutenue, et il y a un contraste avec l'allusion à un voile. Dans cette montagne, il anéantira le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il y a probablement plusieurs manières de comprendre ce voile. C'est vrai que j'ai un peu de la peine à trancher. Est-ce que ce voile, c'est tout simplement une allusion au deuil, comme des personnes ou des femmes qui mettraient un voile au moment d'un deuil? Est-ce que c'est le symbole même de la mort? Le voile lui-même, c'est la mort, un voile qui est enlevé. La mort est anéantie. Ou encore, est-ce que c'est un voile qui est comme un aveuglement, quelque chose qui nous cache la vision de Dieu, l'incapacité à reconnaître Dieu dans sa grandeur, dans sa gloire? Peut-être un peu détroit, mais il y a certainement un lien à faire avec la mort, puisqu'il est dit, il anéantira la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple. C'est le Seigneur qui parle. Et dans ces paroles, on découvre une double facette au sujet de Dieu. Il est à la fois puissant pour anéantir la mort, mais aussi proche, attentionné. Qui vous a déjà essuyé les larmes? Qui vous a déjà essuyé les larmes? Probablement très peu de personnes, peut-être vos parents, et encore. Il faut être infiniment proche, affectionné et doux pour pouvoir faire cela. Il y a le dévoilement de sa puissance et de sa douce affection. Comment comprendre ces allusions à la fois à un banquet et à la mort? Ça me fait un peu penser à une parabole que Jésus a dite dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. C'est la parabole du fils prodigue. Il est question d'un fils, du plus jeune fils, qui vient vers son père et qui lui dit en gros, je préférerais que tu sois mort parce qu'en fait, j'ai envie de profiter de ton argent. Il demande son héritage et en gros, c'est un peu comme s'il disait, je préférerais que tu sois mort, c'est pas toi qui m'intéresse, c'est ton argent. Il accepte, le père accepte et ce fils part, il dilapide ses biens, il vit la grande vie, mais au bout d'un moment, il arrive à court et il se trouve au plus bas de la société. Il se souvient de ce qu'il avait auprès de son père et il se dit, si seulement j'étais considéré ne serait-ce que comme un esclave. Il retourne chez lui en espérant que son père va l'accepter comme un serviteur. Et la réaction normale d'un père, ce serait quoi? Tu as voulu partir? Eh bien, reste-y. Tu as finalement ce que tu mérites. Mais le retour du fils, c'est l'occasion d'une grande célébration. Il demande, après l'avoir embrassé, qu'on le revête d'habits nouveaux. Et le père affirme, amenez le veau gras qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et c'est le début de la fête. C'est de la mort que le fils est épargné. Selon ces paroles de Jésus, être séparé du Père, c'est l'équivalent de la mort. Parce que la relation avec le Père est brisée, on est comme aliéné dans la condition d'une mort. Et lorsqu'il accepte de le faire revenir, ce banquet est le symbole de la générosité de Dieu qui va subvenir à tous ses besoins. Alors oui, pour en revenir à la citation de Ferry, il y a effectivement un sens dans lequel cet amour, il est trop beau. Mais il est vrai. Ça correspond non pas au produit de nos aspirations à nous, mais à la réalité d'un Dieu qui nous dépasse. À la fois dans sa justice, il nous dépasse, et à la fois dans son amour, il nous dépasse. Et l'affirmation de ce texte, c'est que chacun d'entre nous a besoin de réaliser la gravité d'une vie sans Dieu. C'est la mort. Physique, spirituelle. Et en même temps, il y a cette invitation à se diriger vers lui, à bénéficier de sa générosité. Pourquoi pas revenir vers lui? Et si vous n'êtes jamais venu, pourquoi ne pas faire ce pas d'aller vers lui? On arrive à une victoire préfigurée. La troisième partie, elle commence là encore par un chant. Et on se souvient que le premier chant, lui, était individuel. Là, le deuxième chant, il est collectif. Écoutez, en ce jour-là, on dira, c'est lui, notre Dieu. Nous avons mis notre espérance en lui. Il nous a sauvés. C'est le Seigneur en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse. Réjouissons-nous de son salut. Il y a un jour de victoire, de salut, où l'espérance n'est plus une espérance, en fait, parce qu'on est en train de goûter à la réalité d'une victoire. On l'expérimente, c'est une réalité. Et dans la manière de présenter cette victoire sur le mal, on découvre un autre symbole, les questions de Moab. Peut-être pour la plupart d'entre nous, ça ne dit pas grand-chose. Si on avait parcouru tout Ésaïe, on aurait vu au chapitre 15 et 16, dans ce livre d'Ésaïe, que Moab est caractérisé par son arrogance, son autosuffisance, le sentiment d'être au-dessus du peuple de Dieu. Et cette victoire-là, elle est aussi présentée avec des contrastes. Contrastes entre une montagne, qui a été mentionnée plus tôt, la montagne de Sion, où Dieu accepte de placer sa main, et Moab qui est foulé aux pieds. Une montagne et Moab qui est foulé aux pieds. Un contraste entre le salut expérimenté par les uns et le fait d'être foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. On attribue à Sénèque cette citation. Le coq est roi sur son fumier. Autrement dit, un coq qui peut être fier et se mettre sur ses deux pattes et se mettre bien droit, il reste encore et toujours installé sur du fumier. Et c'est un peu comme ça avec Moab. Il y a cette arrogance, cette prétention à être quelqu'un. Mais la réalité, c'est qu'ils sont dans le fumier. Le contraste est fait entre un peuple qui reconnaît clairement avoir été sauvé par Dieu et l'orgueil de Moab. Un contraste se trouve aussi dans l'allusion aux mains. La main de Dieu demeure sur cette montagne. Les mains de Moab, eux, essaient de nager dans cette mare, tout en essayant encore de manœuvrer contre Dieu. Et la fin, c'est l'image à nouveau d'une ville dont les murs s'effondrent pour finir en poussière. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ce qui est dit là? C'est terrifiant, n'est-ce pas? Qui d'entre nous ici n'a jamais fait preuve d'orgueil, d'arrogance, de condescendance? Est-ce que ce n'est pas une lutte au quotidien, chacun d'entre nous? On lutte avec l'orgueil, l'arrogance. Ce qui serait totalement faux, c'est d'avoir une lecture comme la victoire acquise par ce peuple sur cette montagne, c'est dû à leur capacité à bien vivre. Ils sont plus justes que les autres. C'est justement faire preuve d'arrogance, de prétention. C'est le contraire de ce texte. C'est ignorer que le salut pour lequel ils sont reconnaissants, c'est un salut qui vient de Dieu. C'est en lui qu'ils ont espéré. Alors comment comprendre? Comment comprendre que nous puissions être sauvés alors que chacun d'entre nous ici avons été caractérisés par l'orgueil? Comment comprendre que nous puissions être sauvés alors que chacun d'entre nous est caractérisé par l'orgueil? Comment est-ce qu'on va être protégé dans la ville de Dieu? Comment est-ce que notre vie peut être préservée? Comment est-ce que nous pouvons expérimenter cette victoire? Avec ces tensions, Ésaïe nous pousse à regarder plus loin vers celui qui a expérimenté l'inverse. Une ville protégée, des siècles plus tard, Jésus s'avance vers Jérusalem. Cette ville qui est symbole de la présence de Dieu. On s'attendrait à ce que tout le monde l'accueille, le reçoive. Mais tout le monde crie « Crucifie-le !» Et l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est en dehors de la ville qu'on va le mettre à mort. C'est lui qui connaît la ruine. Une vie préservée? Jésus meurt sous les coups et les injures. Il n'est préservé d'aucune injure. Et dans tout ce qui se passe, on voit toute la haine et l'hostilité vis-à-vis de Dieu. Il connaît la mort. Son corps est embaumé, placé dans un tombeau. Une victoire préfigurée? Alors qu'on lui réserve le pire sort, les moqueurs affirment « Il prétend sauver les autres, qui se sauve lui-même !» Et on a l'impression d'une terrible défaite. Mais c'est une victoire. Parce que s'il acceptait de se sauver lui-même, d'avoir cette victoire-là, il n'aurait pas la victoire de nous délivrer, nous, de la mort. Il ne nous aurait pas sauvés, nous, de notre jugement. Du jugement que nous méritons. Alors, conscient de ce qu'il a fait, conscient de ce qu'il a vécu, dans quelle ville est-ce que vous allez résider? Où est-ce que vous allez régulièrement trouver domicile? Est-ce que vous allez essayer de vous faire un nom ici, en comptant simplement sur vous-même, sur vos capacités, vos forces? Où est-ce que vous allez reconnaître votre faiblesse, votre pauvreté, et vous réfugier régulièrement en Dieu? Est-ce que vous allez revenir à Dieu et vivre ce banquet qu'il a prévu pour vous? Ou est-ce que vous allez expérimenter la mort, l'aliénation du Père? Est-ce que vous allez être au bénéfice de sa victoire? Ou est-ce que vous allez continuer de penser que vous pouvez vous-même vous sauver en subissant son jugement? Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons reconnaître notre arrogance, notre orgueil, nos suffisances, reconnaître que nous sommes même aveugles la plupart du temps. Accorde-nous la grâce de trouver refuge au bon endroit, dans la ville que toi tu représentes. Accorde-nous, Seigneur, la joie de reconnaître l'abondance, la générosité que tu nous accordes en tant que Père, l'assurance du pardon et la promesse d'une vie éternelle. Accorde-nous, Seigneur, d'être au bénéfice de ta victoire, de reconnaître que c'est toi qui as tout accompli en Jésus. Et permets-nous de vivre à la lumière de ce qu'il a fait pour nous. Amen.